Europe 1, votre matinale info. Thierry Dagiral.
Place à l'information tout de suite. Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Bienvenue sur Europe 1, il est 7h.
On a tous été atterrés de ce qui est arrivé. Cyril était un travailleur social expérimenté. Il savait gérer des situations délicates et difficiles.
Il a pourtant été victime de l'impensable hier. Ce responsable d'un centre d'accueil de réfugiés a été tué à coups de couteau par un ressortissant soudanais. Nous serons à Pau dès le début de ce journal.
C'est un signal d'espoir dans la lutte contre le Covid. Dans les EHPAD, où trois quarts des résidents ont été vaccinés, les contaminations sont en baisse de 40%.
Les motards veulent pouvoir remonter les files de voitures pour gagner du temps. C'est une pratique qui leur est interdite depuis 3 semaines. Eh bien, ils manifesteront un peu partout en France aujourd'hui.
Enfin, en ski, un Français peut en cacher un autre. On attendait Alexis Peintureau et c'est Mathieu Fèvre qui a été sacré en slalom géant.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le maire de Pau, François Bayrou, évoque un drame épouvantable. Hier, le responsable d'un centre d'accueil de réfugiés a été tué à coups de couteau.
Par un ressortissant soudanais de 38 ans qui a été interpellé dans la foulée. Il est ce matin en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, cet homme devait quitter le territoire. Cet acte, en tout cas, a plongé toute la ville dans l'incompréhension. Reportage de Benjamin Peter.
Pourquoi quitter chez toi à la maison pour venir tuer quelqu'un qui travaille pour les gens ?
Léonard ne comprend pas ce qui a poussé ce Soudanais de 38 ans à poignarder à 10 reprises Cyril, le responsable des demandes d'asile ici au CADA Isarkos. Lui qui est arrivé en France en 2015 lui doit beaucoup.
C'est notre patron, c'est lui qui s'occupe de nous. C'est lui grâce à lui que je suis là. Grâce à lui j'ai fait les formations. C'est triste, plus que même triste.
Ce qu'on sait c'est que suite à une condamnation pour agression à l'arme blanche, les services de l'État lui demandaient de quitter le territoire. Il aurait donc décidé de se venger, de s'en prendre à ce père de famille. Pour Philippe Elias, le directeur du CADA, son collègue était pourtant formé à ces situations de crise.
Cyril était un travailleur social expérimenté. Il savait gérer des situations délicates et difficiles. Et sur ce principe-là, on a tous été atterrés de ce qui est arrivé. Et je voudrais témoigner aujourd'hui de cet engagement et d'une situation de drame que nous connaissons, qui nous amène forcément sur la question difficile de comment toujours mieux accompagner dans un engagement qui est le nôtre, les personnes que l'on accueille.
Alors la structure ne devrait pas rouvrir avant plusieurs semaines, le temps d'accompagner les équipes qui ont tout tenté pour essayer de sauver Cyril et maîtriser l'assaillant. À Pau, Benjamin Peter, Europe 1.
Sur le front du Covid à présent, Emmanuel Macron pourrait prendre une décision en fin de semaine prochaine. Il se laisse 8 à 10 jours avant d'annoncer un nouveau cap.
Soit les chiffres sont bons et certaines restrictions pourraient être allégées, soit ils sont mauvais et là, de nouvelles mesures pourraient être annoncées. Aujourd'hui, on est toujours sur un plateau. Plus de 24 000 contaminations ces dernières 24 heures. Certains espèrent un peu plus de liberté, comme les résidents d'EHPAD, isolés depuis un an et pourtant vaccinés, à l'image de Madeleine.
On a pris justement ce risque de se faire vacciner. C'était pour avoir un petit avantage dans notre vie.
Et cet avantage ?
Eh bien, on l'a pas. Ce manque de liberté, c'est quelque chose d'insupportable. On n'a rien fait de mal, nous. C'est pas notre faute, ça. On est comme si on était en prison.
Et sans doute, pour prendre leur décision, les autorités auront-elles ce chiffre en tête ? 3 résidents sur 4 ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. Et en 15 jours, les contaminations ont baissé de 40%, Virginie Salmen.
C'est une baisse significative des contaminations en EHPAD, moins 40% à titre de comparaison. Dans la population générale, c'est moins 11%. Certains directeurs de maisons de retraite estiment donc qu'il faut commencer à préparer une réouverture progressive. Yann Reboulot, président du groupe de 22 EHPAD Philogéris.
Moi, je pense qu'effectivement, on peut penser à l'assouplissement, d'autant que c'est quelque chose qui se prépare. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va déclencher du jour au lendemain. Si effectivement le vaccin est efficace, et il semble l'être, les résidents, leur première réaction, c'est de dire on s'est fait vacciner, c'est pour être protégé. Désormais, on est protégé. Certains ne se sont pas fait vacciner, mais j'allais dire, ils expriment clairement qu'ils le font en toute connaissance de cause. Donc leur vraie demande, voilà, c'est un lien affectif qui soit rétabli, qu'on ne fonctionne plus avec des restrictions d'horaire, des restrictions du nombre de visites, des espaces parloirs pour recevoir ces visites.
Un collectif de résidents d'EHPAD réclame 4 assouplissements très clairs. Le droit de recevoir ses proches dans sa chambre plutôt que dans une pièce séparée. Pouvoir aller rendre visite à sa famille à l'extérieur. Le retour des activités en groupe et des repas en commun avec moins de distance sociale à table dans les restaurants des maisons de retraite.
Les explications de Virginie Salmen pour Europe 1.
Et Marguerite, parmi les autres évolutions espérées, il y a bien sûr le retour des concerts, des spectacles. Des concerts tests vont être organisés à Marseille et à Paris.
Oui, avec des tests Covid avant et après le spectacle. Plusieurs milliers de personnes assises dans une salle fermée. Et pourquoi pas debout en extérieur? Voilà ce que proposent les organisateurs d'un festival à Saint-Malo. Ils travaillent main dans la main avec les médecins. Reportage de Charles Guyard.
Voilà, la grande scène se situe ici en temps normal.
C'est donc ici, près de Saint-Malo, que Kevin Reyes et l'équipe du festival Reggae No Logo veulent organiser des concerts dès le mois de mai en public, le tout évidemment dans le contexte sanitaire que l'on connaît.
C'est ici qu'on va expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire dans le cadre d'un festival test.
Un test grandeur nature, restauration, bar, camping, tout sera installé pour les 2000 spectateurs. L'objectif étant de vérifier la circulation du Covid en mode concert en plein air. Le professeur Pierre Tatevin, infectiologue au CHU de Rennes, est partenaire de l'opération.
En ce moment, il y a à peu près 5% des gens qui pourraient se contaminer. Donc si, parmi les gens qui ont été au concert, le pourcentage de gens qui se contaminent est autour de 5%, on pourra considérer que le risque du concert est négligeable.
Test PCR négatif obligatoire à l'entrée, puis 3 tests à J+1, +8 et +15. Voilà les conditions à remplir pour assister au concert debout et non assis, contrairement aux nouvelles directives du ministère de la Culture, Kevin Reyes.
J'ai du mal à visualiser 5000 personnes en randonnion sur des chaises. C'est faisable, mais qu'est-ce qui va en sortir de tout ça? Sans imaginer d'être debout dans un espace en plein air avec les gestes barrières.
Et si le projet est validé avec le groupe Pierre-Paul Jacques en tête d'affiche probable, les résultats de ces concerts tests pourraient être connus dès le mois de juin. Saint-Malo, Charles Guyard, Europe 1.
Et après les concerts tests, des matchs tests pourraient peut-être avoir lieu. Cela fera l'objet en tout cas d'une réunion entre la ministre des Sports et plusieurs patrons de clubs. Roxana Maracineanu est à Lyon ce matin pour évoquer le sujet. Puis un mot de l'épidémie à l'étranger. Les pays du G7 s'engagent à aider les plus pauvres dans la course au vaccin. Ils ont acté le déblocage hier de 7,5 milliards de dollars.
7h06 sur Europe 1. C'est un réflexe pour de nombreux motards. Eh bien, il va falloir l'oublier rapidement. Depuis le 31 janvier, il est interdit de remonter les files de voitures.
Oui, fini les quelques minutes gagnées en zigzagant au milieu des voitures. La pratique a été tolérée pendant 4 ans, mais elle est trop dangereuse selon les autorités qui n'ont pas donné suite à cette expérimentation. Remonter les files, c'est interdit. Et c'est révoltant pour certains motards qui vont manifester aujourd'hui. Laura Taouchanoff.
Je me lève le matin et je monte sur ma moto et j'ai plus l'impression d'être légal. Quand on roule aujourd'hui, on est comme des fugitifs.
C'est l'heure de pointe sur le périphérique parisien. Jess remonte la file de voitures, un œil sur le rétroviseur pour guetter la police. Il risque à chaque fois un retrait de 3 points sur son permis de conduire.
Vous avez vu, on glisse, on sort tranquillement. Les voitures sont cul à cul, ne peuvent rien faire.
Là par exemple, il y a une voiture qui vient de partir un peu au dernier moment.
Il s'est aperçu de sa bêtise, mais moi comme je roulais tranquillement, voilà. J'ai pas été surpris.
L'interdiction du remonte-file signe la fin de toute une profession, regrette ce chauffeur de taxi-moto.
Notre métier, c'est de faire gagner du temps dans la sécurité à nos clients, d'emprunter ce chemin qui est le chemin des motards. Sans entrefile, il n'y a plus de métier, il n'y a plus de taxi-moto, ça ne sert plus à rien.
Pour son collègue Michel, bientôt 15 ans de métier à son actif, et c'est aussi une question de sécurité.
Ça voudrait dire qu'il y aurait un deux roues entre deux véhicules, il faudrait des ambulances à chaque porte, quoi. Parce qu'il y aurait trop d'accidents. Il y a un manque de visibilité du deux roues, et parce que le freinage est beaucoup plus efficace sur une voiture que sur une moto. Entre deux voitures, tout peut arriver, quoi.
Les motards réclament aussi la législation du remonte-file pour permettre aux écoles de conduite de l'intégrer dans les formations.
Laura Taouchanoff et puis les militants du groupe Génération Identité vont riposter dans la rue aujourd'hui. Ils sont sous le coup d'une procédure de dissolution. Ce groupuscule d'extrême droite a mené récemment plusieurs actions anti-migrants aux frontières de la France.
La Birmanie à présent, Marguerite, la répression de l'armée a fait une première victime.
Oui, il s'agit d'une jeune femme de 20 ans qui, comme des milliers de Birmans, s'est soulevée contre le coup d'état militaire. En pleine manifestation, elle a reçu une balle dans la tête, elle en est morte. Cette femme est aujourd'hui l'un des symboles de la lutte pour la liberté, Mathieu Bock.
La jeune Mia a passé son 20e anniversaire plongée dans le coma. Cet employé d'une épicerie est resté 10 jours en réanimation avant de succomber à ses blessures. Aujourd'hui, elle est devenue une martyre, affirme l'activiste Tets Wewin, qui participe à toutes les manifestations à Rangoon.
C'est intentionnel, ils l'ont tué d'une balle en pleine tête alors qu'elle se cachait derrière un abribus. C'est un avertissement et une menace envers les manifestants et en particulier les jeunes. Ce sont eux qui mènent ce mouvement. Ils ont 20 ans et n'ont pas de commandement centralisé. Ils se débrouillent comme ils peuvent avec leurs moyens contre la dictature.
Si la jeunesse a pris la tête du mouvement dans la rue et sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'était indispensable pour elle, explique Wuna, 27 ans. Cet étudiant qui vit exilé en France est venu manifester devant l'ambassade de Birmanie. Armani à Paris.
Ce qu'on vit en ce moment, ce n'est pas quelque chose qu'on a appris dans nos livres d'histoire. Ce sont uniquement nos parents qui nous en ont parlé. Et aujourd'hui, on fait à notre tour ce que nos aînés ont fait à leur époque. Et on est obligé parce qu'on est jeune, on suffoque, on n'a aucun espoir, on se bat pour survivre.
Et Wuna promet qu'il continuera à manifester. Dimanche, il se rendra dans la ville de Po, où vit une importante communauté birmane qui organisera un rassemblement pour tous les Birmans vivant dans le sud de la France.
L'Algérie hier a libéré plus de 30 prisonniers politiques, prisonniers d'opinion. Parmi eux figure l'ancien correspondant d'Europe 1, Khaled Drareni. Il était emprisonné depuis près d'un an après sa condamnation pour atteinte à l'unité nationale.
C'est sans doute l'une des étapes les plus importantes dans le déploiement de la 5G en France. Le réseau pourrait bientôt débarquer à Paris et toucher les 2 millions d'habitants de la capitale.
Un accord a été signé hier entre la mairie et les opérateurs téléphoniques. Ça n'était pas gagné, la majorité d'Anne Hidalgo y était dans un premier temps opposée. Mais Clément Le Saffre, tout a fini par se débloquer.
Oui, un opérateur nous confie que les débats ont été sereins et constructifs. La mairie de Paris ne pouvait pas légalement bloquer le déploiement de la 5G, mais elle a obtenu des contreparties en échange de son feu vert. Les opérateurs ont pris des engagements pour limiter l'exposition aux ondes, réduire leurs émissions carbone, réduire aussi la fracture numérique ou encore mieux recycler les téléphones portables dans leur boutique. Un sujet important pour Paul Simondon, adjoint à la mairie de Paris en charge du dossier.
Cette nouvelle technologie demande un changement des téléphones. Donc si on imagine qu'un grand nombre de consommateurs changent leur téléphone dans les mois ou les années qui viennent, la question de que vont devenir ces téléphones, est-ce qu'il va y avoir un gâchis de matières premières ou alors une réutilisation, c'est bien un enjeu totalement crucial.
Les Parisiens vont quand même devoir encore patienter quelques semaines, le temps déjà que l'accord soit voté formellement au conseil municipal, prévu pour la deuxième quinzaine de mars. À ce moment-là, et pas avant, les opérateurs pourront déployer leur réseau. Orange vise la fin mars à peu près. Ces antennes sont installées, il n'y aura qu'à les allumer. SFR, Bouygues et Free lui emboîteront progressivement le pas.
Merci Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
Le sport maintenant, Marguerite, on passe au ski avec un champion français qui n'est pas celui qu'on attendait.
Et non, hier en slalom, tout le monde attendait le sacre d'Alexis Peintureau, ultra favori, qui a finalement fait une sortie de piste. Mais qu'à cela ne tienne, le champion du monde est tout de même français. Il s'appelle Mathieu Fèvre. C'est sa deuxième médaille d'or cette semaine après son titre en slalom parallèle.
Je suis venu ici en priorité pour le géant et puis c'est vrai que de repartir de cette course avec la plus belle des médailles, c'est juste un sentiment incroyable. En plus de ça, effectivement, ça fait 53 ans qu'il n'y avait pas eu de champion du monde de géant. Moi, c'est ma discipline, je suis géantiste, je fais quasiment que ça. Donc ça représente énormément de choses. En plus de ça, voilà, après Jean-Claude Killy, c'est quand même la référence dans le monde du ski alpin et encore plus chez nous les Français avec Alexis, bien évidemment, qui a un palmarès aussi incroyable. Donc effectivement, d'inscrire mon nom après lui au palmarès du géant en tant que champion du monde, c'est lourd de sens. Et il faut croire qu'ils ont raison, les gens qui disent que les choses, elles arrivent quand on s'y attend le moins, parce que voilà, aujourd'hui, c'est pas que je m'y attendais pas, mais en tout cas, je pensais réellement pas pouvoir repartir d'ici avec deux médailles d'or.
La joie de Mathieu Fèvre, double champion du monde au micro de Romain Libard. Les biathlètes français sont également engagés dans leur championnat du monde. On suivra tout à l'heure les relais féminins et masculins. Et puis beaucoup plus loin de nous, à partir de 9h30, c'est la demi-finale dames de l'Open d'Australie. Elle oppose la japonaise Naomi Osaka, troisième mondiale, à l'américaine Jennifer Brady.
Mais c'est parfait, c'est complet. Merci Marguerite Lefebvre. À tout à l'heure pour le grand journal de 8h avec notamment un dossier à ne pas rater. On va parler cybercriminalité. Europe 1, 7h13.